C'est quoi être un ingénieur? C'est la question que je me pose depuis bientôt 5 ans. 5 ans que je fais mes études à l'INSA, 5 ans que chaque jour, j'en apprends un peu plus sur ce mot si particulier. Pourtant, c'est comme si j'avais raté quelque chose. Dans 6 mois, je vais être diplômé et j'ai l'impression de n'avoir compris qu'un dixième de sa définition. C'est pourquoi j'ai décidé de partir à la rencontre d'anciens étudiants, de chercheurs, de professeurs, bref, de tous ceux qui pourraient m'éclairer de leur expérience sur ce métier qui m'attend demain. Bonsoir à tous, je m'appelle Adrien et il me reste 6 mois pour donner un sens au mot « ingénieur ». Je me vois pas faire un métier tous les jours de ma vie, me lever tous les matins et même pas être capable d'expliquer ce que je fais de ma vie. Ingénieur, c'est pas un métier, c'est une formation. Même si demain je travaille dans un secteur qui est pas industriel, qui est pas technique, etc., je fais du théâtre où je vais élever des chèvres à la montagne. Je resterai ingénieur. Je ferai ça quand même façon ingénieur. On va pas rester bloqué en tant qu'étudiant dans un truc qui nous plaît pas. Mais ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que ce que j'ai fait de mes études, c'est pas perdu. J'ai pas fait ça pour rien.
Chose dit, chose promis, nous voici de retour pour le dernier épisode de ce podcast. Ça y est, maintenant aujourd'hui je suis ingénieur et je vais pouvoir vous partager mon ressenti, mon expérience sur ce métier, et puis conclure toute cette expérience qui a été l'enregistrement de ces interviews. Alors je vous souhaite à tous une très bonne écoute, et je vous dis à tout de suite.
Bonjour Adrien, bienvenue dans ce podcast. Alors c'est un peu particulier aujourd'hui, puisque c'est moi qui pose des questions. Donc on va commencer effectivement par la première question, comment est-ce que ça va aujourd'hui ?
Eh bien, écoute, ça va bien. Je suis très content de pouvoir enregistrer ce dernier épisode du podcast, là, de pouvoir conclure un peu cet épisode. Et je suis curieux de savoir ce que tu m'as préparé comme question pour aujourd'hui.
Je vais partir sur des questions un peu classiques que tu as pu poser à tous les ingénieurs que tu as pu croiser durant ton aventure de podcast avec des ingénieurs de l'INSA. Et puis, je t'ai préparé aussi quelques questions peut-être un peu plus personnelles. Tout d'abord, alors pour les auditeurs et les auditrices qui n'auraient peut-être pas écouté toute la série que tu as pu faire, est-ce que tu pourrais te présenter donc ton parcours académique, ton parcours professionnel, ton parcours extra-professionnel aussi en une certaine manière, puisque c'est aussi un tout, notamment en tant que podcasteur.
Ouais, alors le parcours professionnel, on va commencer par ça parce que c'est ce qui est le plus intéressant pour cet épisode. C'est donc j'ai fait l'INSA Génie électrique. Je suis diplômé de août dernier, donc c'est 2022, et donc aujourd'hui je suis ingénieur en système embarqué pour du ferroviaire. Donc voilà, j'ai fait la continuité de mes études aujourd'hui dans l'industrie, et on en parlera peut-être un petit peu plus après. Et sinon, en parallèle, différents podcasts, notamment ce podcast-là qui avait pour but de comprendre et déterminer c'est quoi un ingénieur au final.
Très bien. Alors, t'as dit un gros mot. Alors, moi, je connais ce gros mot-là, mais ingénieur embarqué, c'est quoi ? C'est quoi être un ingénieur embarqué ?
Alors, ingénieur système embarqué, globalement, donc je fais du code, je fais des lignes de code, je fais de l'informatique, on pourrait dire.
T'es un geek, quoi.
Ouais, c'est ça, exactement. Je fais des lignes de code pour l'intelligence qu'on va avoir dans tout ce qui est système embarqué, on retrouve dans tout ce qui est mobilité. Donc ça peut être des trains, ça peut être des voitures, ça peut être des avions. Dans mon cas, c'est pour le train, pour des métros, pour être plus précis. Et typiquement, sur des métros, il y a des pilotes automatiques, il y a une certaine intelligence. Même dans certaines voitures, aujourd'hui, on a une intelligence, que ce soit pour la détection, que ce soit si on pense... même pour des voitures électriques aujourd'hui, faut piloter le moteur, il y a tout un tas de capteurs aujourd'hui sur ces véhicules intelligents, et donc c'est apporter cette intelligence au système qui va être notre voiture, notre train, l'avion.
D'accord, et est-ce que tu pourrais rappeler ce que tu as fait comme étude pour devenir ingénieur système embarqué? Il faut faire quoi comme étude?
Alors, faut faire quoi pour être ingénieur système embarqué? Il y a plein de possibilités d'arriver là-bas. Hein. Moi, je sais ce que je fais aujourd'hui. C'est pas forcément la voie que j'ai prise qui m'emmène là. Donc, j'ai fait l'INSA donc en 5 ans. C'est-à-dire que les deux premières années, c'était le FIMI, PC pour les plus anciens. Donc, c'est formation initiale au métier d'ingénieur. Donc, 2 années de préparation mathématiques, physique, chimique. Et après, j'ai intégré GE, donc la branche génie électrique, où on voit tout plein d'éléments, que ce soit sur l'électricité de haute tension, l'électricité de basse tension, donc ça va être d'électronique, de la mécatronique, ou aussi bah, du coup du code appliqué donc à des systèmes physiques. Donc, c'est le cas de la voiture, du train ou du système embarqué. Ça fait partie des choses que j'ai vues durant mon cursus et qu'aujourd'hui j'applique après directement.
D'accord. Ce qui peut être intéressant, c'est pourquoi tu as voulu devenir ingénieur ? Est-ce que les systèmes embarqués, c'est une passion que tu as depuis 10 ans ? Parce qu'on a parfois quelques passions. Moi, je sais que j'avais une certaine passion pour l'informatique à l'époque, mais qui est retombée. Mais qu'est-ce qui, un jour, tu t'es dit, moi, je veux faire ingénieur dans le génie électrique et systèmes embarqués ? À quel âge tu as su que tu voulais devenir ingénieur ? Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ces longues études à l'INSA ?
Eh ben, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je me suis posé il n'y a pas longtemps, justement. Pourquoi j'ai fait tout ça? C'est absolument pas parce que je voulais devenir spécialiste système embarqué. Système embarqué, c'est venu un peu au fur et à mesure. C'est-à-dire, bah, j'étais au lycée et puis on m'a dit, bah, quand même, t'es bon en maths, tu pourrais aller par là. Et moi, j'étais en mode, bah, je suis curieux de comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va aller faire des études d'ingénieur. Puis après, une fois que j'ai fini la préparation, on m'a dit, bah, il y a ce département, donc la spécialité génie électrique, tu vas avoir plein de choses différentes. Moi, j'étais curieux de comprendre, donc je dis, bah, vas-y, on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Et puis après, bah, l'opportunité professionnelle, c'était un peu la même chose. Ah bah, les trains, comment ça fonctionne? Ah, il y a ça derrière, bon bah, allez, on va regarder un peu plus. Donc, c'est plus le parcours qui s'est fait au fur et à mesure. Par contre, la question de pourquoi j'ai voulu devenir ingénieur, c'est, je l'ai retrouvé sur un de mes premiers cours avec mon premier professeur sciences d'ingénieur au lycée, hein, à l'époque. Qui nous avait expliqué le fonctionnement du besoin. Et en fait, c'était, il parlait de l'importance de toujours définir le besoin lorsqu'on est un ingénieur, c'est-à-dire à quoi ça va servir. On a de la technique, on sait faire des calculs, on sait faire des choses, c'est bien, mais à quoi ça va servir, ce truc-là? Et la question, d'ailleurs, c'est toujours de rendre la vie meilleure, peu importe la façon dont ça s'applique, que ce soit plus de confort, soit aujourd'hui avec des questions, on le voit avec tout ce qui est environnemental, etc., avec plus d'efficacité, ou alors avec moins d'impact, mais toujours de faire un peu mieux et de répondre à un besoin. Et du coup, moi, cette question-là, c'est quelque chose qui me touchait beaucoup, de me dire, bah, est-ce que je vais pouvoir améliorer... C'est très prétentieux, hein, je trouve, mais de dire, bah, est-ce que je vais pas améliorer la vie des gens avec ces calculs. C'est un peu le truc qui m'a poussé par là.
Et pourquoi le système embarqué? Parce qu'il y a pas effectivement, comme tu le disais, le génie électrique, c'est très, très vaste entre... Les personnes qui, comme moi, ont commencé par tout ce qui est un peu ligne et réseau électrique. Maintenant, moi, personnellement, je suis plutôt dans le nucléaire. Pourquoi les systèmes embarqués? T'es un peu tombé comme ça dedans et puis t'as continué dans cette voie où non, il n'y avait pas un attrait particulier au codage ou plus particulièrement, puisque t'es dans le domaine du ferroviaire, plus particulièrement sur des systèmes embarqués dans le domaine du ferroviaire. T'es tombé dessus peut-être en faisant un stage ou un TP, peut-être.
Alors, je suis tombé dessus sur un stage dans le système embarqué durant mon premier stage industriel. Donc, c'était en quatrième année. Et j'avais fait, du coup, c'est de l'équivalent automobile, c'était des nacelles élévatrices. Donc, globalement, il faut imaginer des voitures sur lesquelles tu mets un truc qui te permet de monter à 10 mètres de haut. Donc, c'est là où j'avais fait déjà un petit peu de système embarqué. J'aimais beaucoup le code. Et sur un autre stage, j'étais parti plus sur de l'automatisme. On voit plus sur de l'industrie, de la production, pour essayer bah, tout ce qui est ligne de production des produits simplement, qui vont sortir. Mais ça me plaisait un peu moins parce que justement, ce côté trop industriel, et moi, je voulais un métier où je me dis, ça fait sens écologiquement parce que c'est quelque chose qui est très important à mes yeux. Je dénigre pas le reste, hein, il faut des ingénieurs partout, mais c'était pas ce que je voulais faire moi. Et du coup, bah, système embarqué, puisque j'en avais fait, je me suis dit, bah, tiens, ça se fait aussi dans le train, donc pourquoi pas commencer par là, et la suite, on verra. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire du coup aujourd'hui bah, du système embarqué pour des trains, parce que je pourrais le faire aussi pour de l'avion, mais typiquement de l'aviation, aujourd'hui, c'est pas un secteur qui m'attirait. C'est plus les différentes branches qui se sont rassemblées à ce point-là, à ce moment-là, et du coup, je me suis dit, bon, on va commencer par là, et puis on verra ensuite.
D'accord, donc avec une petite fibre... Développement durable, écologie peut-être derrière, je pense qu'on y reviendra dans la suite du podcast, ouais. Effectivement. Et alors, dans quelle entreprise tu as pu travailler, dans laquelle tu travailles aujourd'hui? Quel type d'entreprise? Petite, grande entreprise, moyenne entreprise?
Alors, je travaille dans une société de conseil. D'accord. Je fais de la prestation globalement. Donc, je travaille pour une entreprise qui, elle, a un client qui est un grand groupe.
D'accord. Donc, métier de consultant. Et de ce que j'entends, tu es plutôt assez épanoui, assez heureux aujourd'hui hein, dans ce métier-là. Est-ce que tu t'interroges peut-être sur peut-être déjà la suite? Est-ce que tu as dit autrement peut-être un plan de carrière? Est-ce que tu t'interroges là-dessus ou pas du tout? Parce que c'est aussi souvent la question qu'on se pose quand on commence une carrière. Est-ce que je vais rester dans cette branche-là? Oui, non, peut-être.
Bah c'est une très bonne question. Déjà, je reviens sur ce que tu as dit. Oui, ça me plaît. Mais c'est parfois compliqué de voir l'impact de ce que tu fais au quotidien parce que c'est des projets où y a beaucoup d'ingénieurs qui sont dessus. On est un peu souvent dans un truc en particulier du système et on a du mal à... Typiquement, sur le train, je ne vois pas les voyageurs qui disent « Ah, mais c'est trop bien le pilote automatique que vous avez développé. » Même les conducteurs, on ne les voit pas. Donc, c'est... Ça, c'est un truc sur lequel j'ai un peu du mal à me projeter encore. Et c'est vrai que du coup, le côté carrière, je me pose plein de questions sur qu'est-ce qui peut se passer ensuite, où est-ce que j'ai envie d'aller, est-ce que c'est plus de la technique et je continue à fond, est-ce que peut-être un peu plus de management, parce que c'est des choses, je sais que c'est un peu, bon, c'est un peu cliché, mais c'est un peu les deux grosses branches, soit tu pars vers du management, soit tu continues dans du technique. Donc déjà, il y a cette question-là, est-ce que c'est dans cette technologie ou non? Enfin, je me pose beaucoup de questions, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de réponses à ce niveau-là sur vers où je veux partir en tant que carrière. Et même le terme carrière fait un, je sais pas, moi, il fait un peu peur. Tu sais, ça fait un peu, c'est tout de suite un peu grand, un peu impressionnant, alors que déjà, aujourd'hui, on a un projet, on le mène à terme, et puis je verrai les opportunités qui se profitent.
D'accord, non, c'est intéressant ce que tu dis, notamment par rapport à la suite de mes questions, donc on y reviendra ouais. Par la suite. Alors, tu as aussi une autre casquette, hein, ce que tu fais depuis quelques années, si je ne me trompe pas, maintenant quand même quelques podcasts. Et moi, je trouve que c'est vachement intéressant. Alors moi, je le vis aussi, et d'autres personnes aussi le vivent aussi, comme toi et moi, d'avoir sa vie professionnelle, sa vie personnelle, mais aussi une vie extra-professionnelle. Donc, moi, j'ai envie de dire, pareil un peu, même question. Qu'est-ce qui un jour t'a motivé à faire un podcast? T'as commencé par un podcast, t'en as fait deux, t'en as fait trois. Pourquoi le podcast et qu'est-ce que ça t'apporte?
Qu'est-ce que ça m'apporte? Attends, je vais reprendre la première question. Pourquoi j'ai fait ça? Comment j'ai commencé ça? Le podcast en question, c'était quelque chose que j'ai fait à l'époque. C'est un PPH, donc ça s'appelait le projet personnel humanitaire qu'on fait à l'INSA. C'est globalement un projet où on dit, tu parles d'à peu près ce que tu veux comme sujet, de la manière que tu veux. Globalement, t'as carte blanche à partir du moment où tu mènes une réflexion. Moi, quand on m'a dit ça, je me suis dit, très bien, je vais pas juste écrire un rapport, je vais faire un podcast parce que j'ai la flemme d'écrire. Ça me saoulait à l'époque. Je me suis dit, on va faire un podcast, comme ça je vais parler, ce sera plus simple. Et ça m'a permis de lancer un petit peu donc, ce projet-là qui était La Peau s'impose à l'époque et de commencer des podcasts. Je me suis pris au jeu, du coup, j'en ai fait de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à cette série-là de podcasts. Parce que ça te permet de donner sens un peu, justement, tu vois, de l'extra-professionnel et le professionnel, les deux se rejoignent ici. Et du coup, qu'est-ce que ça m'apporte? Beaucoup de positifs, en fait, ça, toute une partie créativité que tu... Je ne vais pas dire que tu ne trouves pas dans le milieu professionnel, mais que tu peux exprimer de manière beaucoup plus libre sur d'autres sujets qui te tiennent à cœur quand tu fais de l'extra-professionnel. Mais surtout, c'est quelque chose que j'ai retrouvé pendant tout le cursus à l'INSA, en fait. C'est l'associatif. Alors, l'associatif, depuis que je suis arrivé ici, je suis passé dans je ne sais pas combien d'assos. Parce qu'on a une vie riche sur le campus et que ça apporte beaucoup de positif. Je ne sais pas si je réponds très bien à la question, je tourne un peu autour du pot, mais...
Non, on va creuser.
Ouais.
Alors, effectivement, puisque tu as parlé du mot associatif, on va creuser effectivement un peu. Il y a quelques mois, je pense qu'on peut le dire maintenant, tu es allé toquer à une association qui s'appelle l'association Alumni INSA Lyon. Comme son nom l'indique, c'est l'association des étudiants et des diplômés de l'établissement, donc établissement dans lequel on a tous les deux été diplômés, du même département d'ailleurs.
Oui.
Tu avais déjà fait des podcasts auparavant. Donc, qu'est-ce qui, un jour, tu t'es dit, mais j'ai envie de faire un podcast sur c'est quoi être un ingénieur aujourd'hui?
Parce qu'en fait, ça me tenait à cœur. Et c'est une question depuis le lycée, je me dis, c'est quoi un ingénieur? Ça paraît être une question bateau, mais pourtant, c'est quoi un ingénieur? C'est ce qui est passe sûrement dans l'intro du podcast, je ne sais plus, mais c'est une question en 5 ans d'études. On nous a beaucoup présenté d'ingénieurs, on nous a beaucoup présenté un peu de technique, on nous a... mais j'avais pas cette réponse-là de me dire, mais concrètement, demain, on me dit, c'est quoi un ingénieur, est-ce que je suis capable de le présenter ? Et je me vois pas faire un métier tous les jours de ma vie, me lever tous les matins et même pas être capable d'expliquer ce que je fais de ma vie, entre guillemets. Donc du coup, j'avais besoin de comprendre et de me dire, mais c'est quoi l'intérêt de mon métier ? Qu'est-ce que je vais apporter ? Qu'est-ce que je vais faire en fait ? Tu parlais de carrière tout à l'heure, quelles sont les différentes possibilités que peut prendre ma carrière ? Et du coup, j'avais besoin de comprendre ça. Et je me suis dit, bah, de la même manière que pour mes autres projets associatifs, puisque moi, je vais chercher des réponses, eh ben, autant rendre ça accessible. Si jamais ça sert à quelqu'un, eh ben, j'aurai tout gagné. Même si c'est qu'une personne, peut-être que bah, au moins une autre personne qui se posait les mêmes questions aura quelques réponses. Et c'est comme ça qu'est né le podcast. Et du coup, bah, je me suis dit, bah, je vais venir toquer chez l'Alumni, parce que qui d'autre que d'anciens ingénieurs qui sont passés par le même chemin que moi pour répondre à ma question. Et c'est pour ça que je suis allé leur tendre le micro.
D'accord, c'est assez clair. Et donc, tu as interviewé quand même plusieurs ingénieurs, donc effectivement, qui avaient tous un point commun, ils avaient tous fait INSA, de générations différentes, puisque tu as commencé par des étudiants, ouais. Et puis tu as terminé par des personnes qui avaient quand même, si je ne me trompe pas, 20, 30 ans de carrière, donc des générations vraiment différentes, des expériences différentes. Donc après tous ces podcasts, donc, la question initiale que tu te posais, c'était « c'est quoi ?» être un ingénieur aujourd'hui. En conclusion, après ces quelques heures d'interview, est-ce que tu as pu répondre à cette question ? C'est quoi être un ingénieur aujourd'hui ?
Oui. Alors, j'ai une réponse. J'ai ma réponse. Et je vais commencer par réexpliquer un truc, c'est qu'il y a autant de définitions du mot ingénieur que d'ingénieur. Donc, ma définition ne sera pas forcément la définition de quelqu'un d'autre. Mais ce que j'ai retenu de tout ça, c'est que, en fait, pour moi, j'ai beaucoup aimé la définition de Pascal Poul qui était « ingénieur, c'est pas un métier, c'est une formation ». Et je pense que c'est le truc que je retiens le plus. Tu vois, tout à l'heure, je me suis présenté, j'ai dit « bah voilà, je suis ingénieur en site embarqué techniquement, c'est faux, je suis développeur informatique dans le milieu du système embarqué. Je fais du développement informatique. Mais j'ai une formation d'ingénieur, j'ai un titre d'ingénieur, un diplôme, on appelle ça comme on veut, qui fait que on a appris une méthode. Tu vois. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui a une méthode et qui sait aborder un problème avec une méthode pour trouver des solutions. Ce sera peut-être pas la plus optimale, ce sera peut-être pas la meilleure, mais il aura une solution à proposer, à un besoin pour un usager. Et je pense que c'est ça pour moi un ingénieur. C'est quelqu'un qui a une méthode pour répondre à un besoin. Et peu importe le domaine, peu importe. Et c'est quelque chose que tu retrouveras partout. C'est-à-dire que ce soit dans l'industrie, en tant que développeur, en tant que alors c'est difficile de donner différents exemples, mais dans mon cas, en tant que développeur, par exemple, je serai un ingénieur, mais on parlait d'extra professionnel. Ce podcast, je l'ai fait aussi méthode ingénieur. C'est-à-dire que je suis parti de, bah, c'est quoi le besoin? Comment on va le définir? Qui va être l'usager final? Donc, qui va écouter? Et comment est-ce que je peux au mieux leur transmettre? Toutes ces questions-là, je me les suis posées façon ingénieur. Pourtant, j'ai fait un travail de presque journaliste quand tu regardes ce podcast. Donc, ouais. Je pense que c'est ça pour moi. C'est plus une formation, une façon d'aborder un problème que vraiment un métier en tant que tel.
Souvent, ce qui revient, c'est faire une formation d'ingénieur, c'est apprendre à apprendre. Est-ce que tu es d'accord avec ça ?
Oui, à 200%. La preuve en est, c'est que mon métier, quand j'ai commencé aujourd'hui, c'est un langage de programmation que je ne connaissais pas, dans un secteur que je ne connaissais pas, sur des méthodes que... Alors, je ne connaissais pas de... Je pars pas de zéro, mais j'ai vu des langages similaires, j'ai vu des choses. Pourtant, il n'y avait pas de peur à me dire « mince, est-ce que je vais réussir ?» Non, la question ne se pose pas. On va forcément y arriver. En combien de temps, ça, c'est la question. Mais il n'y aura aucun problème à apprendre tout ça. Tant qu'il y a la curiosité, l'envie d'apprendre, sur notre formation, quand on a fait des calculs d'intégrale triple, quand on a fait des dérivés dans tous les sens, quand on s'est tapé les séries de Fourier... sur le moment... Est-ce qu'on en retient grand-chose de cette technique-là en particulier, sur tout ce qu'on a vu ? Non, mais enfin, on retiendra des bouts. C'est ce que je disais, moi j'ai vu retenu du développement. Bon, bah, y a un petit bout sur tout ce que j'ai vu qui me sert vraiment, mais c'est surtout cette méthode d'apprentissage qui me sert aujourd'hui.
D'accord.
Donc oui, je suis à 100% d'accord.
Mais il y a peut-être une question qui me paraît aussi intéressante. Donc là, on a parlé de l'ingénieur d'aujourd'hui. Pour toi, c'est quoi la place de l'ingénieur dans la société de demain? Donc on a des défis, le 21e siècle, on a la transition énergétique, la transition numérique, la transition sociale, notamment du fait du dérèglement climatique. Donc, c'est quoi pour toi, après les podcasts que tu as pu réaliser, les ingénieurs que tu as pu rencontrer, la place de l'ingénieur dans le développement durable?
C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et bon, je vais te décevoir un peu. J'ai pas de réponse. Hein. J'ai pas de réponse miracle à tout ça. J'ai un avis, mais c'est pas une réponse comme valeur absolue. On se pose beaucoup la question de est-ce que techniquement il y a une technique qui va nous sortir. Tu vois, on parle de dérèglement climatique. Je pense que c'est la grosse question que j'ai en tête moi personnellement. On peut diminuer l'impact, mais on peut pas le réduire à néant. Donc il y a pas que la technique qui fait que on va s'en sortir. Et du coup, pour moi, ça a un équilibre entre bah, l'ingénieur, ce qu'il va faire, c'est essayer d'améliorer au maximum. Mais il y a aussi toute une partie vulgarisation, explication, je n'ai pas le terme, sensibilisation. D'expliquer aussi, de dire, bah, ouais, il faut aussi qu'on apprenne à être un peu plus sobre, mais tous, que ce soit à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle de l'individu, à l'échelle de l'industriel, à l'échelle... politique. Alors après, qui commence à se gérer, etc., ça je sais pas. Mais dans l'idéal, oui, idéal, bah, c'est, je pense que ce serait ça à la place d'un ingénieur. Je suis parti un peu loin là, je sais pas, non, si t'as te répondu tout, mais.
Non, mais je pense que Alors, quand je pose cette question-là, il y a des avis divergents forcément, parce que c'est aussi une question qui est assez subjective, qui dépend aussi de la sensibilité de la personne, mais il y a quand même des adjectifs qui reviennent assez fréquemment par rapport à la place de l'ingénieur dans le développement durable. Mais avant de te dévoiler peut-être les adjectifs qui reviennent très souvent, pour toi, face à ces défis, notamment le défi du dérèglement climatique, ça serait quoi les grandes qualités que devrait développer, que devrait avoir un ingénieur?
Le premier que je vois, ce serait la remise en cause. Être capable de pas simplement dire « oui, je fais parce qu'on me l'a dit », mais d'être capable de remettre dans un contexte et de se poser la question de à quoi ça va servir. Est-ce que ce que je vais faire ne va pas avoir un effet rebond? Ouais. Donc, être capable de remettre en cause et de resituer. Allez, je vais essayer de t'en donner trois. Remise en cause pour resituer tout ça. Capacité de vulgarisation. Je ne sais pas quel adjectif on pourrait mettre derrière, mais capacité... Pédagogie, ouais. Pédagogie. Pédagogue, tout à fait. Et oui, capacité de se questionner, de prendre du recul. Sur ce qu'on fait.
Bon, ça en
fait. Je pense que c'est les trois, mais on revient sur la remise en cause.
C'est effectivement les adjectifs ou les qualités qui reviennent assez fréquemment, et puis on a peut-être un autre qui est être responsable, peut-être d'une certaine manière, mais bon, se poser des questions, je pense que c'est aussi être responsable. Donc on a dit responsable, pédagogue et faire preuve d'esprit critique. C'est effectivement des adjectifs et des qualités qui reviennent assez fréquemment. T'as interviewé, comme je le disais au début, des personnes qui ont des âges différents, qui font partie de générations différentes. Moi, de ce que j'ai pu écouter, je pense qu'à la question « c'est quoi être un ingénieur ?» Alors, on trouve quand même des similitudes dans les rencontres, mais entre un étudiant, un doctorant et quelqu'un qui a 20-30 ans d'expérience, est-ce que t'as observé des différences peut-être notoires dans les réponses à la question « c'est quoi être un ingénieur aujourd'hui ?»
Dans le fond, je dirais que non. Peut-être plus dans la forme, parce que la question elle n'est pas amenée avec le même prisme, ce qui est normal. On n'a pas vécu avec les mêmes époques, donc avec les mêmes repères, et donc forcément, on n'a pas les mêmes attentes en tant qu'ingénieur. La différence, ouais, ce serait plus sur la forme et sur le contexte dans lequel on a évolué. Moi, l'impression que j'ai, c'est que le rapport au travail change beaucoup, notamment pour les plus jeunes générations, où c'est plus... En tout cas, personnellement, je ne vois plus le travail comme une fin en soi, mais plus comme un moyen. Si je peux apporter quelque chose de positif, bah, tant mieux. C'est un moyen d'apporter quelque chose de positif, que ce soit personnel ou professionnel. Et c'est peut-être là où j'ai vu le plus de différence entre les différentes générations. C'est sur le plus le rapport au travail que sur l'utilité ou l'impact de l'ingénieur. Parce que ça, pour le coup, c'était assez quand même global et l'envie était la même pour tout le monde de se dire, bah ouais, on veut faire mieux. Alors, mieux dans quel sens ? Ça dépendait de chacun, de son secteur, de ce qu'il a vu. Mais l'envie était toujours de faire mieux.
Alors, effectivement, moi, c'est aussi ma conclusion quand j'ai entendu l'ensemble des podcasts. Il y avait quand même des similitudes et quelques petites différences notoires, notamment de par cette relation que les générations Y, que les générations Z, donc 90-2000, dans lesquelles on fait partie, ont un rapport quand même qui est un peu différent par rapport à des générations des années 70-80. Et peut-être en une certaine manière, qu'est-ce que tu dirais, après notamment les podcasts que tu as pu faire avec des étudiants, avec des jeunes diplômés, à des générations des années 70-80 par rapport aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail? Comment tu pourrais peut-être expliquer en une certaine manière ces différences par rapport au monde du travail et qu'est-ce que tu aurais envie de dire à tes aînés peut-être en une certaine manière?
Pas de pression sur cette réponse du coup. qu'est-ce que j'ai envie de dire? Non, mais c'est déjà, alors je vais commencer par réponse par déjà, c'est bien qu'on ait justement une mixité comme ça des générations. Moi, les projets sur lesquels j'ai le mieux avancé, sur lesquels j'ai le plus appris, c'était quand on avait des mixités de générations. Parce que justement, tu travailles avec des personnes qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience, qui comprennent un peu mieux. Alors toi, tu arrives dans une industrie, tu ne sais même pas comment elle fonctionne, en fait. Donc, ce serait un peu prétentieux d'arriver à dire « Bah non, mais maintenant, c'est comme ça que ça marche, parce que j'ai vu à l'école, en fait, c'est comme ça. ça ne marche pas comme ça. Donc, déjà, un grand respect pour tous les aînés. Mais oui, ce que je dirais, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que on n'a simplement pas forcément ma génération n'a peut-être pas le même rapport au travail et que les enjeux ne sont plus forcément les mêmes que ce que ça a été il y a de nombreuses années. Et on le voit aujourd'hui avec l'enjeu climatique. Bah simplement, il faut qu'on arrive à travailler main dans la main pour ces enjeux-là et que tout le monde y trouve son compte, que ce soit personnellement, que ce soit que chacun se sente bien dans son travail. Et qu'ils puissent se sentir utile et même au-delà de se sentir utile, être utile, oui. Parce que c'est quand même mieux si ce qu'on fait ça marche. mais je pense que je dirais ça, ouais. Simplement avoir conscience que bah, on n'a pas tous le même emploi de travail, mais c'est pas grave. Simplement on en discute et puis on trouve des solutions ensemble.
Très constructif. Au-delà de l'aspect des enjeux de développement durable qui sont assez présente, je trouve, dans les générations dans lesquelles on appartient. Si tu peux donner des exemples concrets de rapports différents par rapport au monde du travail, par rapport à nos aînés, par rapport à nos pères aussi, et notre génération, ça serait quoi ces exemples-là ?
Le premier exemple que je vois qui a déjà été un point de discussion avec plusieurs aînés que j'ai eu dans différentes boîtes, c'est le télétravail. Il y a certaines personnes qui ne comprennent absolument pas et qui disent que c'est une aberration. Il y a d'autres personnes qui disent « mais c'est incroyable, il faudrait qu'on soit tous en 100% chez nous ». Et je pense qu'il n'y en a aucun des deux qui a raison. Le tout se trouve dans un certain équilibre. Je vais prendre l'exemple du télétravail. C'est une question qui était souvent revenue où on a l'impression « non mais quand les gens ils sont en télétravail, ils font rien chez eux et puis ils posent un jour de congé alors qu'en fait, non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est simplement que ça apporte une certaine flexibilité. Mais quand on l'explique et qu'on voit que derrière, les résultats sont présents et que en fait, on a fourni tout le travail de la même meilleure qualité, avec une aussi bonne qualité, on se rend compte que ça marche tout aussi bien. Et tu vois, ça c'est un rapport où typiquement c'est différent. Alors que ça apporte une vraie qualité de vie. Moi, je vais te donner un exemple typique, c'est que depuis que j'ai commencé, moi aujourd'hui j'ai le droit du télétravail, ça me permet de rentrer voir de la famille, et quand je vais rentrer voir ma famille, j'ai mon lundi en télétravail, donc je travaille donc depuis chez eux, et je prends mon train le lundi soir. Donc du coup, je ne suis plus pendant les périodes d'affluence, donc même d'un point de vue société, c'est mieux. Parce que du coup, tu étales le trafic sur différentes horaires, sur une plage plus large. Donc, tu vois, ça impacte. C'est juste que le monde fonctionne un petit peu différemment. Et je pense que si on prend le temps d'expliquer après, il n'y a pas de raison que ça se passe mal.
D'accord. T'as d'autres exemples en tête?
Est-ce que j'ai d'autres exemples en tête? Ah oui, et ça c'est un très bon point. Oui, bah, les plans de carrière, typiquement. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins ce truc du, comme tu disais, je vais faire ma carrière dans tel endroit, et puis je vais faire toute ma vie là, et puis ce sera comme ça. Ce que je disais, le travail n'est plus une fin en soi. En tout cas, à titre personnel, le travail n'est plus une fin en soi. Dans le sens où, bah, c'est pas je vais être ingénieur développement système embarqué, et ce sera ça et pas autrement. C'est plus, on verra. L'important, c'est d'être heureux, voilà. Et puis, on verra ce qui m'apporte le plus de bonheur et le plus de satisfaction, tout simplement. Et c'est cette question-là que je retrouve le plus, et quand j'en discute avec d'autres de ma génération, qui est, en fait, moi, la seule chose que je veux, c'est être heureux. Après, ce qui m'apporte ce bonheur, à voir quel métier c'est, à quel moment et quel contexte. Mais... Alors, je dis pas que les anciennes générations voulaient pas être heureuses, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais c'est moins calculé à l'avance. C'est, on verra bien ce qui se présente et ce qui permet d'atteindre cette sérénité, en fait.
Je pense aussi, et là je vais un peu prendre la défense de nos aînés, entre guillemets, que aussi oui. On a une chance extraordinaire depuis quelques années, depuis peut-être une petite décennie maintenant, c'est qu'on a un marché du travail qui, alors, c'est à la fois, je dirais, un avantage comme un inconvénient, mais qui est hyper tendu sur nos métiers d'ingénieur. Donc, si tu veux, si tu as envie du jour au lendemain d'aller à l'autre bout de la France déménager, tu trouveras toujours du job. En tout cas, on va prier pour que ça dure. On a une offre quand même d'emploi d'ingénieur quand même qui est assez intéressante en ce moment, ce qui n'était pas forcément non plus le cas il y a 10-20 ans. Donc, je pense que ça peut aussi, ceci explique cela. En tout cas, moi, c'est aussi l'analyse.
Ah oui, non, c'est une vraie chance, et c'est vrai que c'est le contexte qui fait que ça nous permet. C'est limite. Quand tu prends la question que je me pose, tu la mets il y a 20-30 ans, on m'aurait dit, mais Adrien, c'est un caprice que tu nous fais. Effectivement, dans le contexte d'il y a 20-30 ans, ça aurait été un caprice. Mais quand tu vois qu'aujourd'hui, on a cette chance-là, et je pense que, tu vois, tu me disais quel message je donnerais à nos aînés, ce serait peut-être ça, de dire, en fait, oui, on a cette chance d'avoir un contexte différent, avec des enjeux différents, notamment l'enjeu climatique qui, lui, est moins cool, mais on a cette chance de pouvoir vivre nos carrières différemment, ce qui fait que, du coup, ça peut donner cette impression de petit enfant gâté, capricieux, qui est en mode, oui, non, mais moi, je veux juste être... alors qu'avant, on était content d'avoir déjà un travail. Donc, c'est vrai que, si ça peut donner une explication de pourquoi on en arrive là, en tout cas, moi, c'est comme ça.
Je le précise, parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut souvent entendre, donc là, on le dit sans tabou, de la part de nos aînés. Non, mais de toute façon, les jeunes, maintenant, ils sont pourris, gâtés, donc ça s'explique aussi. Ça s'explique aussi.
Mais c'est vrai.
Cette différence par rapport au monde du travail, après, ça, c'est de la sociologie, mais s'explique aussi par des choses qui, parfois, sont très simples, du fait que tu as de l'offre et de la demande, et t'as une sorte de déséquilibre qui fait qu'on est assez avantagé de ce point de vue-là, et qu'on peut se permettre, on a cette chance-là, et je pense qu'il faut aussi la saisir, de pouvoir se dire, j'ai envie de faire autre chose, de changer de branche d'ingénieur, enfin quand je dis de branche d'ingénieur de spécialité, mais je pense qu'on a quand même cette chance-là de se dire, demain si j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose. Et ce qu'avaient pas forcément mes générations des années 70, 80. Donc je pense qu'il faut aussi le dire.
C'est clair que sur ce point-là, on est très chanceux, et je suis très content d'avoir cette possibilité-là, de dire si ça ne me plaît pas, je vais pas rester bloqué en fait, dans un truc qui ne plaît pas. Et ça, c'est cool. C'est rassurant, en fait.
Exactement.
C'est très rassurant.
Exactement. Écoute, Adrien, j'ai encore deux questions. On arrive, je pense qu'on a quand même évoqué la plupart des questions qui me paraissaient intéressantes à développer après l'écoute de tes podcasts. Qu'est-ce que tu as retenu de ces podcasts à titre personnel? Qu'est-ce que ça t'a apporté? J'ai cru comprendre que ça avait répondu à ta question initiale de c'est quoi être un ingénieur aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'a apporté sur le plan personnel, et quelles interrogations ça t'a permis aussi de développer?
Ça m'a apporté des réponses, je sais pas mal. Ça m'a apporté des réponses aux questions que je posais. Tu vois, maintenant, je sais ce que c'est qu'un ingénieur, je suis capable de l'expliquer. Mais plus que ça, en fait, c'est une façon de boucler la boucle, entre guillemets. C'est-à-dire que, notamment quand on termine les études, jusqu'à la remise des diplômes, tu as un temps de latent entre le moment où on dit, bah, ça y est, officiellement, tu as tout ce qu'il faut, tu peux aller sur le marché du travail, et ta remise des diplômes, il y a un temps qui se passe. Et moi, entre les deux, j'étais un peu en mode, ah ben ça y est, du coup, là, je commence. Enfin, il n'y avait pas de point final. La remise des diplômes a amené ce point final et ça vient là, c'est un peu l'épilogue, si tu veux, je vois ce podcast-là. Donc, ça permet de boucler ce cycle études. Donc, ça, voilà ce que ça m'a apporté personnellement. Et après, toutes les questions que j'ai pu aborder, bah, on l'a vu sur les différents épisodes, mais les deux. Trois grandes choses que je retiens, c'est que bah, globalement, on ne va pas rester bloqué en tant qu'étudiant dans un truc qui ne nous plaît pas. On peut changer, comme tu as dit, parce qu'on a la chance avec le marché du travail actuel. Que bah, ingénieur, c'est quand même beaucoup de choses. Et c'est avant tout une façon d'aborder les problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui m'a... Enfin, personnellement, ça me fait beaucoup de bien de me dire, en fait, même si demain, je travaille dans un secteur qui n'est pas industriel, qui n'est pas technique, etc., je resterai ingénieur. Ce truc-là de me dire, même si demain, je ne sais pas, je fais du théâtre, ou je vais élever des chèvres à la montagne, tu vois, c'est un peu le cliché, ben je serai quand même un ingénieur. Je ferai ça quand même façon ingénieur, avec cette méthode et cette façon de penser. Et ça, ben, ça m'a beaucoup rassuré parce que je sais que peu importe ce que je vais faire demain, ben, ce que j'ai fait de mes études, ce n'est pas perdu. Je n'ai pas fait ça pour rien. Tu vois. Donc, quelque part, ça m'a beaucoup rassuré sur ce point-là.
Ça me fait penser à une question que je ne t'ai pas posée, que je vais te poser.
Vas-y.
Quel message tu voudrais faire passer peut-être à un collégien, un lycéen qui se pose la question, est-ce que je fais ingénieur ? Oui, non, peut-être. Quel message tu pourrais lui faire passer ?
C'est une grande question, parce que c'est vrai que quand on est au collège-lycée, je vais m'imaginer que je me parle à mon moi qui était justement de cette époque-là, et bah, tu ne sais pas ce que tu veux faire à cette époque-là. On te dit, c'est super grosse pression, il faut que tu saches quoi faire de ta vie, et puis là pendant 5 ans tu vas faire des études, et puis après tu vas bosser sur ces trucs-là, et puis bah, te plante pas. La première chose que je vais te dire, c'est en fait, tu ne peux pas te planter, d'accord ? Il n'y a pas de mauvais choix, et tu pourras toujours changer. J'ai un éton, c'est pas ingénieur que tu veux faire, tu veux reprendre des études derrière, on peut reprendre des études à 40 ans. Donc, nos pressions, je pense que c'est la première chose que je dirais. Et la deuxième, c'est pour, admettons, la question maintenant c'est plus ingénieur, ce serait, est-ce que tu es curieux en fait ? Est-ce que tu es curieux de comprendre comment ça fonctionne ? Est-ce que tu as envie de comprendre et d'apprendre et de voir un peu, est-ce que dès que tu touches un objet, tu es en mode, est-ce que, comment ça marche ? Parce que si tu as cette démarche-là, a priori, tu es quand même sur une bonne voie pour que ça te plaise, ou en tout cas que ça ne dégoûte pas le truc d'ingénieur. Ça peut être un truc sympa. Ça pourrait te plaire, le métier d'ingénieur. Mais je dirais bien, ça pourrait. Il faut quand même que tu creuses, va regarder un petit peu plus. Et je dirais, quelque chose qu'on ne fait pas assez, va voir directement ce que c'est qu'un ingénieur. Va parler à des ingénieurs, va poser des questions, tu renseignes-toi auprès, tu trouves le numéro d'un alumni, tiens, par exemple, d'une école d'ingénieurs, et tu te dis, bah, est-ce que je pourrais pas parler à des ingénieurs aujourd'hui, là, que je puisse poser des questions et voir un petit peu ce qu'ils font. Parce qu'en fait, les études, c'est quelque chose, mais ce qui est bien, c'est le métier que tu vas faire derrière. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois directement, les études, c'est qu'un chemin pour t'amener à ce métier-là. Donc, peu importe le métier, mais en plus pour l'ingénieur, bah, va parler à des ingénieurs, va les voir et demande-leur directement. Fais ce que j'ai fait moi avec ce podcast, tends-leur un micro. Bon, bah, tu le fais pour toi, t'as pas besoin d'en faire un podcast complet, mais va leur demander, bah, du coup, c'est quoi ce que vous faites ? À quoi ça va servir si je fais toutes ces études pendant 5 ans ? Qu'est-ce que ça va être, quelle va être la finalité ? Et peut-être que ça te, soit tu te diras, mais trop bien, c'est ce que je veux faire, soit tu te diras, ah bah non, c'est peut-être pas ça, peut-être qu'il y a d'autres possibilités, peut-être qu'un jour tu viendras dessus, t'as le temps, tu verras.
D'accord. Très bien. Eh ben, écoute, j'ai plus d'autres questions, à part peut-être celle-ci. Est-ce que tu aurais peut-être des choses à rajouter qu'on n'aurait pas abordé durant cet entretien ?
Merci à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter tout le podcast. Je ne sais pas si je leur dirai en conclusion après, mais déjà un grand merci. J'espère que ça a plu aux gens et qu'ils auront trouvé aussi des réponses. S'il y a un message que je vais faire passer, peut-être aux étudiants, ingénieurs, etc., c'est bah, juste soyez heureux, en fait. Je pense que c'est un peu bateau, hein, mais juste faites quelque chose qui vous plaît, que ce soit pendant vos études ou après. Restez pas bloqué dans un truc qui vous plaît pas, parce que c'est quand même... Enfin, la vie est courte, donc c'est quand même dommage de pas se faire kiffer alors qu'il y a plein de trucs cool à faire. Et puis ça va aller, quoi, c'est cool.
D'accord, ma conclusion plutôt... plutôt philosophique et positive.
Ouais.
Et merci Adrien d'avoir répondu à mes questions et d'avoir joué le jeu à l'inverse, puisque comme je le disais en tout début, d'habitude c'est toi qui poses les questions, cette fois-ci c'est moi qui les ai posées. J'ai trouvé que c'était pour ma part un podcast vraiment intéressant, conclusion par rapport au travail que tu as tout réalisé. Donc merci également pour le travail que tu as pu réaliser, c'est des podcasts que moi j'ai pris plaisir à écouter et je ne doute pas que les auditeurs et les auditrices prendront également plaisir.
Chers auditeurs, merci d'être restés jusqu'au bout, d'avoir écouté ce podcast. Moi, je suis très content de pouvoir repartir avec les réponses aux questions que je me posais. J'espère que ce partage à travers ces quelques épisodes vous aura permis peut-être à vous aussi de répondre à quelques-unes de vos questions. Si jamais vous connaissez un étudiant, un lycéen, un collégien ou quelqu'un qui travaille dans le monde de l'ingénierie que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas à lui partager l'épisode. Peut-être que lui aussi, ça pourra lui servir. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et j'espère que vous aurez l'occasion de vous épanouir dans votre vie personnelle et professionnelle. À bientôt !